La Bible dit qu'il s'enfuit et il va se cacher. Et dans Ésaïe, le chapitre 59, le verset 2, verset 2 connu, quelqu'un peut le dire par cœur. Vous avez fait en sorte de faire deux, mais ce sont vos péchés qui font une séparation entre nous et Dieu. Donc, avec le péché, il y a quoi? Une séparation entre Dieu et nous. Maintenant, le truc qui porte, c'est que Dieu a besoin de communiquer avec son peuple. C'est ça? Parce que depuis la création, depuis avant même la création, il communique avec son peuple. Il communique avec les anges. Il communique avec Adam et Ève. Et vous voyez, maintenant, le péché arrive. Est-ce que Dieu peut apparaître dans toute sa gloire avec Adam et Ève pour lui parler face à face?
Toujours.
Non? Pourquoi? Exactement, c'est à cause du péché. Dans Exode, le chapitre 20, le verset 19, nous parle de. Exode, ça se trouve à être connu pour quoi? Pour les 10 commandements. Donc, avant les 10 commandements, il y a Exode, le chapitre 20, n'est-ce pas? Donc, Dieu demande une préparation très intéressante, une préparation de 3 jours avant qu'il donne les 10 commandements à son peuple. Et Dieu demande à son peuple que. De ne pas s'approcher de la montagne, c'est quoi? De peur qu'il ne meure. Et est-ce que Dieu physiquement est descendu sur la montagne? Ou bien on va le dire comme un genre Dieu apparaît à travers la montagne, la Bible écrit, la montagne écrit comme enfumée. Merci. Donc, la montagne apparaît comme si c'était enfumée. Donc, le fait que Dieu apparaît à travers ce genre de manifestation, même à travers cette manifestation, si tu approches de la montagne, qu'est-ce qui passe? Dieu dit, tu meurs. Et après que Dieu donne les 10 commandements à Moïse, voilà que le verset 19, le peuple dit à Moïse, écoute, ne laisse pas Dieu nous parler. On veut que toi tu nous parles. Parce que nous ne voulons pas mourir. Donc ils savent que la sainteté ou la gloire de Dieu en tant que celle qui est regardée avec l'œil nu peuvent nous enlever la vie directement. Ok? Donc, Dieu utilise qui pour parler au peuple d'Israël? Il utilise Moïse. Okay? Donc, cet effet d'avoir peur ou de mourir devant la présence de Dieu existe dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Vous allez voir dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, où Ésaïe voit Dieu dans toute sa gloire et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe de sa face et il maudit. Malheur à moi. Il dit parmi les peuples qui ont ouvert un cœur et qui lèvent et sont devenus impurs. Et puis dans Apocalypse 1, verset 17, Jean a la même réaction. La même réaction. Lorsqu'il voit Jésus dans toute sa gloire, il tombe sur sa face. Donc, l'effet que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, c'est la même chose. Lorsqu'on voit Dieu dans toute sa gloire, c'est. S'il n'y a pas un intermédiaire, ok? Donc, par rapport à ça, c'est pour ça que dans un autre chapitre 3, le verset 7, la Bible dit que Dieu avait sans avoir averti, premièrement, chez ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu commence à utiliser des gens pour parler à son peuple. Et puis, le livre des choses. Le livre des choses est connu pour quoi? Quel événement, plus grand événement qui se passait dans le livre des choses? Au livre des choses, n'est-ce pas? Quelque chose de très intéressant parce qu'on apprend ça depuis tout petit. Lorsque on voit Dieu envoie Moïse et Aaron dans l'Égypte pour faire sortir son peuple d'Égypte, le peuple quitte l'Égypte. Et arrive au moment où il reçoit les 10 commandements. Donc, après avoir reçu les 10 commandements, Dieu donne encore des directives à Moïse. mais quel était leur objectif à atteindre? C'était Canaan, n'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu sort son peuple du pays d'Égypte, son objectif c'est d'amener le peuple à Canaan. Donc, en cours de route, il y avait quelque chose qui se passe. Il donne les 10 commandements et puis il donne d'autres choses encore. Par exemple, Exode le verset 25 et le verset 8 qui nous dit ils me feront un sanctuaire et ils habiteront au milieu d'eux. Donc, en cours de route, Dieu donne des directives pour la préparation de son peuple pour rentrer dans le Canaan. N'est-ce pas? Donc, si aujourd'hui on prend le même épisode qui s'est passé dans Exode, est-ce que Dieu veut répéter la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'il veut nous enlever de l'Égypte du péché? Est-ce qu'il veut nous emmener à Canaan céleste? N'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est la même chose. Mais est-il possible de dire que c'est la même chose que Dieu nous donne encore des directives pour que nous puissions nous préparer pour atteindre Canaan céleste? Donc, il a fait cela dans l'ancien temps avec le peuple d'Israël, il le fera aussi encore pour la fin des temps. C'est pour cela qu'il parle à travers des personnes, il parle à travers des gens pour que nous puissions avoir des bonnes directives, des bons conseils. Les bons conseils et surtout la bonne préparation pour que nous soyons un jour dans. Donc, c'est pour cela que Dieu a un système, un moyen de nous parler, c'est à travers ses prophètes. Donc, si Dieu utilise un prophète pour préparer son peuple à rentrer dans le Canaan céleste, ne le ferait-il pas pour le Canaan céleste? Donc, Apocalypse, chapitre 12, verset 17. C'est un verset à qui je vais enlever la Bible et puis on va terminer avec ce verset à la fin. Okay. Donc c'est un verset qu'on a vu ce matin avec Jonathan. Ok? Le verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, Apocalypse 19, verset 10, nous dit c'est quoi le témoignage de Jésus. C'est quoi le témoignage de Jésus d'après Apocalypse 19, verset 10 17. 17.
L'Esprit le prophétie.
L'Esprit le prophétie. L'Esprit le prophétie. Merci. Donc, une des caractéristiques qu'on voit par rapport à la postérité de la femme, c'est qu'ils avaient deux choses. C'était, Apocalypse 12, verset 17, ils avaient la loi de Dieu et le témoignage original. Donc, la loi de Dieu et le témoignage de Jésus. Et l'Esprit le prophétie. Comme on a dit, si Dieu veut donner des directives à son peuple pour que nous soyons dans le Canaan céleste, maintenant la question se pose, qui a peur de ces révélations vers Dieu? C'est Satan, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on parle du dragon dans le chapitre 12 de verset 17, il nous dit que le dragon s'irrite contre la femme et va faire la guerre contre sa postérité, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, pour lui, pour que nous ne puissions pas rentrer dans le Canaan céleste, il ne veut pas que cela se réalise, n'est-ce pas? Donc, la première chose, c'est qu'il a peur que Dieu révèle les secrets ou bien l'âme ultime qui veut combattre contre Satan, si vous voulez, parce qu'à travers l'esprit de prophétie, on a beaucoup d'outils pour nous protéger contre ce genre d'ennemis, n'est-ce pas? Ok? Donc, est-ce qu'il est important aux critiques qu'on ne soit pas séduit? Oui. Vous comprenez pas? Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Merci. C'est tout le monde bien? Ok. Matthieu 24, verset 24 nous dit: car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de ces dieux qui étaient possibles, même les Jésus. Donc, Jésus, dans le chapitre 24 de Matthieu, il nous parle de faire attention que les gens nous séduisent. Vous allez voir que plusieurs fois, Jésus répète la même chose.
On avait parlé de ça.
Mais si Jésus répète quelque chose dans un de ses sermons ou de ses discours, c'est-à-dire que c'est très important que personne ne nous séduise. Et là aussi, il dit qu'il se lèvera des faux prophètes. Donc, à un certain moment, nous regardons ce texte et nous disons qu'il est très important qu'on ne soit pas séduit parce que à la fin des temps, il y aura des gens qui vont essayer de nous. C'est sûr. Ok, parfois, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour nous séduire? Des miracles, des prodiges, toutes sortes de choses pour essayer de gagner notre attention et de gagner aussi notre confiance. Je vais le trouver après. Donc, une des choses, lorsqu'on comprend tout ça, on comprend que Dieu veut nous parler et il veut nous parler à travers qui? À travers ses prophètes, à travers ses serviteurs, mais on comprend aussi qu'il y a quelqu'un qui essaie de détourner ou bien de modifier ou bien de nous faire douter de ce message pour que nous soyons séduits et nous passons à côté de Canaan céleste. N'est-ce pas? Question pour que devons-nous faire? N'est-ce pas? Donc, on comprend que Dieu veut nous parler, on comprend qu'il y a quelqu'un qui veut nous essayer de nous mettre les bateaux de la route. Qu'est-ce que nous devons faire? Une des choses qu'on doit pouvoir essayer de faire, c'est la fermeté ou tributaire. Nous allons essayer de comprendre les critères bibliques concernant le don de la prophétie. Essayer de comprendre un peu comment Dieu essaie de travailler pour nous atteindre. Il y a beaucoup d'informations par rapport à l'esprit de prophétie. J'ai essayé de faire plus simple possible pour qu'on puisse, non pas seulement avoir plein d'informations dans la tête, mais essayer de l'expliquer aussi sans même avoir un livre ouvert ou un cahier ouvert. Donc, si on peut expliquer à une autre personne c'est quoi l'esprit de prophétie, où ça a commencé, ou bien. Qu'est-ce que c'est et comment on peut vérifier la validité des prophètes. En fait, si on peut le dire par cœur, pour moi c'est vraiment parfait. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu utilise? On a vu que Dieu utilise ses prophètes en mode 3, verset 7, et aussi, on va ouvrir ce verset, Pierre, le verset 21. Il y a des versets que je vais passer vite là-dessus. Il y a des versets qu'on va ouvrir pour essayer d'être dans les temps. Ça va? 2 Pierre 1, 21. Il nous dit: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ça? Donc, est-ce qu'il est important que ces personnes parlent ou bien soient inspirées du Saint-Esprit pour nous parler? Très important, n'est-ce pas? On ne peut pas arriver avec notre propre idée parce que si j'arrive avec mes propres idées, c'est pour cela qu'aujourd'hui on a beaucoup de textes. De personnes qui essaient de soulever un mouvement par rapport à une idéologie, mais quand, lorsque Dieu inspire, vous allez voir plus tard qu'il y a des critères que Dieu respecte lui-même à travers sa parole. Ok? Dans l'Ancien Testament, et comme dans le Nouveau, Dieu utilise des prophètes et des prophétesses pour parler à son peuple. Quelques prophètes dans l'Ancien Testament? Pardon? Élie, Jérémie, Noé, Abraham,
Samuel,
ok. Une chose qui est très importante aussi à dire ici, c'est qu'il y a plusieurs prophètes comme on a mentionné, mais est-ce que tous ces prophètes ont un livre écrit?
Non.
Pas tous, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'il y a des prophètes que Dieu leur demande de parler seulement. Et il y a d'autres que Dieu demande d'écrire ce qu'ils ont à dire. Parce que ce message, ce n'est pas seulement pour le temps présent, mais ce sera pour l'avenir. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont des prophètes qui n'ont pas un livre à eux, mais parce que sous l'inspiration de Dieu, ils sont poussés soit à écrire, soit à ne pas écrire. Donc, ça c'est l'Ancien Testament. Et le prophète de l'Ancien Testament.
Anne.
Déborah.
Anne.
Anne, c'est du nouveau.
C'est
quoi? Anne, elle a prophétisé. Il y avait une prophétesse de l'Église. Oui, c'est du nouveau.
Et il y avait aussi
Anne,
la prophétesse dans
l'Église. Exactement. Ok? Donc, dans
l'Ancien
Testament, j'ai mis seulement trois personnes. J'ai mis Nathan. Vous vous rappelez de Nathan? Ok, Nathan, avec l'histoire de David. Il y avait Uzza. Et puis il y avait dans Jérémie. Lui, il était un prophète qui prophétisait au temps de Jéjaquim. Et puis Jéjaquim l'a fait mourir parce qu'il prophétisait bien la parole de Dieu. Ok? Nouveau Testament. Quelques noms: Siméon, Anne et sa fille de Philippe. Vous avez entendu de cela, hein? Ok? Qui prophétisait aussi dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu utilise ses moyens pour nous parler, parce que c'est pas parce qu'il veut juste parler, il veut être, on est le, son, c'est pas parce qu'il veut juste parler, mais c'est parce qu'il veut donner les conseils pour nous faire atteindre l'objectif qu'il veut que nous atteignions, c'est-à-dire le Canaan Terrestre. Comme Jonathan a utilisé les rapports ce matin avec la porte. Et le groupe de gens qui étaient là-bas avec tout Alain qui était ici. Donc il essaie de nous tirer à travers la porte et à travers son message. Okay? Le rôle du prophète. D'après vous, c'est quoi le rôle d'un prophète? Juste dire ce que Dieu veut dire. Pardon? C'est une de ces autres points principaux, oui.
Oui, non seulement le prophète doit dire ce que Dieu lui a annoncé de dire, mais aussi la l'annoncer dans sa vie. On voit aussi comme l'exemple de Jérémie. Non, pas de Jérémie. Il y avait un prophète qui lui avait dit que Israël était tenté dans la vie d'un problème, parce que Israël était
et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants pleurants et emportés à tout bon de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Ok? Donc, si j'arrête ici, il y a plein de choses que cet verset nous dit. Tout ce que les dons que Dieu donne à l'Église, c'est pour tirer l'Église à quoi? À se perfectionner. Ok?
À
atteindre l'unité de la foi. Ok? L'œuvre du ministère de l'éducation du corps du Christ. Nous soyons en unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Et aussi que nous ne soyons pas en mode flottant sur les doctrines, mais que nous soyons affermis dans la vérité que nous avons en ce moment. Donc lorsque Dieu donne des messages, c'est pour davantage nous affermir dans la foi que nous avons en ce moment. Ok? Dans Éphésiens 2, verset 20, même dans le Nouveau Testament, le don de prophétie joue un rôle très important. Éphésiens 2, verset 20 et 21. Je vous ai dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tous les édifices bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, surtout on bâtit sur les enseignements des prophètes. Ça va jusqu'à présent?
Okay.
Nous suivez toujours, hein? Ok. On veut atteindre quoi? Canaan céleste. Et pour atteindre Canaan céleste, Dieu a besoin de nous parler, n'est-ce pas? À nous donner des quoi?
Des
états, des directives, des outils pour nous préparer à atteindre cet objectif. Donc, pour nous donner ces outils, il utilise quoi? Des prophètes pour nous parler, des gens, des serviteurs de Dieu qui nous aideront à atteindre le but. Mais aussi, on voit qu'on doit se mettre en garde contre des choses. C'est quoi? Les faux prophètes. Ok? Donc, le rôle du prophète aussi édifie l'Église pour aider l'Église à mieux se passer, à s'affermir. Donc, on a aussi la mise en garde qui est ici. Donc, première mise en garde. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est-à-dire que tout le monde qui arrive avec un message qui dit j'ai une vision. Donc là, tout le monde est en mode écoute, connecte, calme. Et essaie d'écouter ce que la personne a à dire. Et tout le monde voit, et tout le monde obéit, et tout le monde suit ce que le prophète dit. 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21. Ok? Il nous dit ici n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, est-ce qu'on a juste besoin d'écouter et d'obéir tout ce que les gens nous disent? Ou c'est quelqu'un qui arrive et dit, oh, je suis le prophète de l'Éternel, j'ai une vision, et tout le monde écoute et obéit? Non. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Examinez toutes choses. On n'examine pas quoi? On va venir avec un test pour essayer de voir un peu c'est quoi les différentes caractéristiques que Dieu demande pour que nous puissions croire en quelqu'un qui dit avoir une vision. Dans 2 Chroniques, le verset 20, le verset 20, Dieu nous demande dans ce texte de croire en ses prophètes, de faire confiance à ses prophètes. Donc, examinez toutes choses, mais lorsque Dieu parle et que vous savez que c'est Dieu qui parle, mettez votre confiance en Dieu. Ok, Marc 24, le verset 11 et 24, Dieu nous met en garde, nous avons vu le texte, Dieu dit, ils célèbrent des faux, Christ et des faux prophètes, que que personne ne vous séduise par rapport à ça. Donc, lorsque Jésus parle dans Matthieu 24, il parle du temps de la fin, n'est-ce pas? Ok? Il nous parle du temps de la fin. Est-ce que vous êtes
sur vous
là? On nous parle du temps de la fin. Si Jésus parle dans Matthieu 24 et dit faites attention aux faux prophètes qui arriveront au temps de la fin. Qu'est-ce qu'on peut déduire par rapport à ça? Il y aura des peuples. Exactement. Donc, le problème maintenant, c'est de trouver ceux qui sont vrais. On n'a pas besoin, si on trouve ceux qui sont vrais, on connaît les critères pour donner un ceux qui sont vrais, donc ceux qui viennent, qui ne fixent pas le profil, on met le côté, n'est-ce pas? Alors, non, le chapitre 4, le verset 1. Jean, chapitre 24. Ok. Je vous ai dit ici, bien aimé, n'ajoutez pas foi à cet esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc vous voyez, même Jean, jusqu'à la fin, il nous met en garde contre des faux prophètes. Donc maintenant, la question qu'on se pose, comment on reconnaît les vrais prophètes? Pour vous, personnellement, comment? S'il y a quelqu'un qui arrive, si j'arrive, il y a un prophète, vous entendez à la radio ou à la télé, à l'antenne, il dit à un prophète quand on le voit, il y a des visions et des sons. Comment allez-vous savoir que si je dis la vérité, si je suis vraiment un prophète de Dieu, si je suis vraiment quelqu'un qui porte le nom d'un prophète? Comment allez-vous me évaluer en ce moment? C'est intéressant.
Examiner ce que tu as dit.
Oui. C'est 22 ans, 5, 25 ans, 21. Et examiner toutes les choses, n'est-ce pas? Ok? Et puis?
À la loi et au témoignage.
À la loi et au témoignage.
Je ne parle pas, il n'y a pas de rôle.
Ok. Alors, bien que.
Oui.
À vous?
Si dans ce que le prophète dit, on ne voit pas les contradictions avec la parole, il faut se donner le temps de trouver si. Parce que le pape ne va pas révéler aussi. Parce que souvent, il va arriver que des gens donnent un message et tu analyses par rapport à la parole, tu ne vois rien de mauvais. Et tu attends quelques mois, puis le prophète donne un autre message, et là apparaissent les choses. Ou alors, ce qu'il a prédit n'arrive pas. Donc il ne faut pas sauter aux conclusions, il faut se donner le temps d'analyser.
Donc, il y a plusieurs réponses que vous avez dites, est-ce qu'il y a des choses que vous allez voir sur la liste que vous avez mis. Donc, comme on parlait tout à l'heure, il y a plusieurs versets ou il y a plusieurs textes que vous pouvez utiliser pour essayer de voir d'événements de ce genre, n'est-ce pas? Donc, la première chose, c'est les critères bibliques. Ok? Ésaïe, le chapitre 20, chapitre 8, le verset 20, comme il nous a dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de roi pour le peuple. Okay? Donc, le message que la personne apporte, comme Abou a dit, va être en accord avec la parole de Dieu, va être en accord avec la Bible. Donc, s'il y a quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu,
ça c'est un des premiers éléments. Mais deuxième verset, j'aimerais juste que vous ouvriez ensemble avec moi. Matthieu chapitre 7, peut-être que vous savez par cœur. Matthieu chapitre 7, les versets 22 et 23. Je pense que Alain a utilisé ce texte aussi. Exactement. Il y a des gens aussi qui mettent la Bible de côté et qui se le parlent directement, donc ils n'ont pas besoin de la Bible. Matthieu chapitre 7, verset 22 au 23. Bien. On lit. Plusieurs le diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Donc, je trouvais ça intéressant parce que il parle des gens qui arrivent vers Jésus, comme Alain a étudié ce texte tout à l'heure, qui arrivent vers Jésus et disent Seigneur, mais on a prophétisé en ton nom. Comment se fait-il qu'on a fait toutes sortes de choses et que maintenant on n'est pas sauvé? Vous comprenez? Donc, Jésus leur donne la réponse. Vous qui commettez, l'iniquité, c'est quoi l'iniquité?
Le standard que Dieu a donné, a établi, qui a écrit dans des tables de pierre, on peut prophétiser, on peut faire toutes sortes de choses, mais à la fin, lorsqu'on arrive dans le monde, les paroles, le standard qui est là, ce n'est pas pris en considération. Donc, c'est tout un travail, et à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas été, qu'on a été du mauvais côté. Okay. Donc, deuxième. Deutéronome, le chapitre 18, le verset 20. Nous allons directement au texte. L'autre texte, il nous parle de celui du chapitre 13, le verset 1 à 4. Il nous dit que si un prophète prophétise et que sa prédiction qu'il a fait arrive à se réaliser, et puis après ça, il se tourne et dit « Allons vers d'autres dieux. » Donc, il ne faut pas expliquer. Deutéronome 18, verset 22. Il nous dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas Dieu, il n'arrivera pas, ce ne sera pas une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète le résiste, n'ayez pas peur de lui. » Ok? Donc, Dieu dit que si un prophète prophétise quelque chose et que cela n'arrive pas, on n'est pas peur de lui. Parce qu'un prophète prophétise quelque chose, ça doit arriver. Si cela vient de Dieu. N'est-ce pas? Donc, on voit aussi, ce n'est pas la seule critère parce qu'on ne veut pas commencer à couvrir derrière les miracles et toutes sortes de choses positives ou que d'autres personnes le font parce que la Bible, l'Apocalypse, dit que ça doit aussi faire des positifs. Et Matthieu chapitre 24, Jésus dit qu'il y aura des produits pour qu'il puisse séduire même les élus. Donc, c'est pas, ne vous basez pas sur un seul critère pour dire ok, ça c'est un prophète. Il y a plusieurs critères qu'on peut se baser pour dire ok, ça c'est un vrai prophète qui vient, ça c'est un vrai prophète. Ok? Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, 3 à 4. On a vu le verset avant. C'est que le prophète, il ne détruit pas l'église. On n'essaie pas d'avoir, comme je l'ai dit ce matin, on n'essaie pas d'avoir un intérêt. vous comprenez? Donc, il n'essaie pas de diviser l'Église pour essayer de faire une autre Église qui est plus sanctifiée à rencontrer Dieu, mais qui travaille avec l'Église, qui travaille pour l'Église, pour éduquer l'Église, pour aider l'Église, parce qu'on a un objectif à atteindre, c'est quoi? Donc, quatrième, 1 Jean 4, verset 15. Ce verset nous parle que celui qui parle de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Une des choses qui est très importante, c'est que dans la grande controverse, si on enlève la divinité de Jésus, donc je ne sais pas comment on va comprendre la grande controverse si on enlève la divinité de Jésus. Parce que c'est très important que Jésus soit divin. N'est-ce pas? Parce que s'il n'est pas divin, donc. Je ne sais pas c'est qui a été envoyé à. Vous comprenez? Donc, c'est comme. Puisqu'il est divin, on comprend qu'il y a une partie de la divinité qui est venue sur terre, qui a vécu avec nous, qui a grandi, qui connaît toutes nos sortes de souffrances que nous pouvons passer, toutes sortes de tentations, et que maintenant il a aussi le pouvoir de nous aider à atteindre ce but, c'est-à-dire le canard céleste, mais aussi de nous aider à pouvoir comprendre notre faiblesse. Donc, une des choses que le prophète doit faire, c'est d'éloigner Jésus en tant que Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité. Il ne peut pas dire que Jésus n'est pas Fils de Dieu. Marchez le verset 7, le chapitre 7 de l'Évangile, nous parle de Jésus. Ce texte nous parle que, après que Jésus ait parlé, il a fait son discours et après l'avoir fini, le peuple dit, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Il parle avec autorité. Lorsque, dans 1 Roi 17, verset 1, lorsque Élie est allé voir Achab, comment a-t-il parlé au roi? Est-ce que c'est ça que la peste timide, passature ou message pas trop compris ou bien une petite voix timide ou quelque chose comme ça? Lorsqu'on lit l'histoire de Élie dans ce chapitre, la vie commence et il arrive et il dit à Achab, il n'aura pas de fille pendant 3 ans. C'est fini. La fille est au travail. Maintenant, c'est Dieu qui fait le reste, les conséquences. Voilà, bien. Il n'a pas besoin d'attendre la réponse ou quelque chose qui provient du roi pour lui dire OK, ou bien c'est qui toi ou quelque chose comme ça. Non. Il arrive, il a un travail à faire, avec l'autorité, avec la puissance de Dieu. Il n'y aura plus de puits pour la parole de l'Éternel pendant 3 ans. Il part. Donc, le message qu'il apporte, c'est un message qu'il parle avec autorité. On comprend qu'il y a quelque chose de puissant derrière ce message. Ça va jusqu'à présent? Ok. Et comme Alain a dit, Matthieu chapitre 7, verset 5, verset 15 et 20, Jésus nous met en garde contre les faux prophètes encore, et puis le verset 20, il nous dit, vous allez voir par rapport au fruit, quel genre de fruit qu'il faut. Donc, dans ce texte, dans Romains chapitre 25, verset 4, et dans Daniel 6, 7 et 11, et aussi dans Apocalypse, le premier chapitre avec l'épisode de Jean, vous allez voir qu'il y a des signes aussi physiques qui se passent lorsque quelqu'un, un prophète, est en vision ou il reçoit, il est en train de recevoir un message. Et il y a quelques points que vous pouvez retrouver. C'est comme, il tombe dans un état de faiblesse,
et puis relevé et soutenu par Dieu.
Est-ce que tout le monde peut voir en arrière?
Ça va? Ok. Les deux bras ouverts devant la vision, et puis ne respire pas même en parlant.
Donc, c'est des caractéristiques des points physiques qui existent pendant que quelqu'un est en vision.
Ça va?
Donc là, j'ai juste mentionné cette fois. Donc il y a peut-être plus ou si vous voulez les heures en place. Mais c'est des critères qu'on peut regarder parce que c'est des choses qui nous aident à comprendre, à mieux se situer par rapport à un métal qui provient d'une source et qu'on n'est pas tellement sûr. On se retourne directement vers la Bible, vers la parole de Dieu pour essayer de voir si c'est un, si c'est quelque chose qui provient de Dieu ou non. Ok? Ça va? Ok. Donc, on aura besoin de ce genre de test visible quand? Et on aura besoin de ce prophétie quand? Donc, on a vu dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7, que l'Église, ou le reste de la postérité de la femme, et sont ceux qui gardent la loi de Dieu. Et le témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus qui représente l'esprit de prophétie. N'est-ce pas? Donc, il y a deux choses qu'on a besoin pour avancer là-bas. Donc, si vous faites du. Est-ce que c'est du qui a fait? Vous avez deux bâtons? C'est non. Je ne sais pas où j'ai trouvé ce qui a fait. C'est faux. Donc, vous avez deux bâtons qui vous aider à avancer là-bas. Lorsque vous faites aussi du. Canon, vous avez les deux rats. Maintenant, la question que vous posez, vous avez un seul rang, qu'est-ce que soit c'est tout le rang, n'est-ce pas? Donc, le peuple de Dieu dans la salle des temps, il a besoin de ces deux rangs pour avancer. Parce que n'oubliez pas, la société, c'est. Donc, si on a un seul des rangs, on est juste en train de faire des pirouettes. Et on ne pense pas que le chemin du ciel, n'est-ce pas? Je dirais oui et non. Parce que c'est la Bible qui est la bête. J'ai une seule prophétie, la petite lumière qui nous amène vers la grande lumière. N'est-ce pas? Donc, on a la grande lumière et la petite lumière. Donc, est-ce que le prophétie nous donne plus de détails par rapport à notre préparation? Donc, peut-être que parce que la Bible est des fois, n'est pas tellement claire pour quelqu'un de le comprendre directement ou. Il y a quelque chose qui que vous ne comprenez pas. Donc, est-ce que le prophétie est là pour apporter plus de compréhension à cet esprit?
C'est pourquoi, non? On a vu ce matin un point qui est important par rapport à ça. On a vu que dans l'histoire de Samuel, quand on reçoit un prophète, au bout du moment, il se fait rejeter sur le monde. Si on rejette une prophétie, quand on rejette un prophète, on rejette, moins une nouvelle. Donc, il y a une différence aussi.
En fait, c'est dans des dimensions parce que quand on regarde l'histoire de la Bible, Dieu a dit « Je vous ai envoyé les prophètes ». Donc, il n'y a aucun prophète qui a existé et qui est intervenu auprès de Dieu en tant que prophète, sans que Dieu l'a envoyé. Donc, c'est vraiment l'intermédiaire que Dieu utilisait pour parler au peuple. Alors, que le Seigneur fait la même chose dans les derniers jours, il va nous dire la chose « Dieu vous a envoyé les prophètes ». Et là, ça me se dépasser parce que quand on rejette, ça se ramène jusqu'à un certain point. C'est plus facile de rejeter les années. Parce qu'on ne regarde pas exactement que tu rejettes Dieu. Mais c'est pour devenir Dieu derrière ce que tu rejettes. Parce que comme ça, tu donnais l'esprit n'est pas utilisé. Logiquement, si tu te donnes vrai, tu te donnes. Et depuis notre esprit qui marche la parole de Dieu, c'est impossible.
Que
Maintenant, est-ce que vous avez toujours ça?
Oui.
Ok, parfait. On aura besoin de temps. Donc, on a vu avec les prophètes au temps de la fin, on aura besoin de temps pour comprendre ce qui se passe et d'avoir une préparation. Je vais prendre ce texte en note, mais je vais juste vous dire la prophétie de Joël. Ça a été quoi la prophétie de Joël, chapitre 2, la suite de la première et de l'arrière-saison. Okay. Donc, c'est une prophétie qui a été accomplie en partie, je dirais. Vous allez voir dans tous les textes dans Actes, chapitre 2, Pierre parle par rapport à cela. Et puis, dans Matthieu l'Apocalypse, nous parle encore du signe que Joël parle ici. Donc, c'est un des prophéties qui a été accompli, mais en partie. Il n'a pas atteint son. Il n'a pas encore atteint son apogée. C'est-à-dire qu'il reste encore une partie de cette prophétie à accomplir. Parce que la prophétie parle de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière saison. Et la pluie de l'arrière saison apporte toutes sortes de choses comme les dons de prophétie. Donc c'est-à-dire que dans le temps de la fin, lorsqu'on arrive dans ce temps, Dieu va déverser son esprit sur les gens qui sont prêts à recevoir son esprit et ces gens vont commencer à parler de Dieu ou à prophétiser pour Dieu. Ok? Donc, dans les années 1800, il y avait des mouvements qui se sont levés. On a le mouvement 1844, si je ne me trompe pas. Il y avait le mouvement des Bourbons, 1805 à 1844. Et puis il y avait d'autres mouvements comme les Shakers, modernes. Lorsque le mouvement Bourbon a surgi pendant cette époque, il y avait celui qu'on appelait le prophète Joseph Smith. Et puis lui, il disait que, dans son message, qu'il y avait une possibilité de faire un baptême sur les morts. Et qu'il y a une autre chose, c'est qu'il découvre la polygamie. Donc, est-ce que déjà là, est-ce que ça rejoint ce que, d'après les critères qu'on a fait, est-ce que ça, on peut dire que c'est un vrai prophète ou c'est un faux prophète? Par rapport à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Parce que le problème ici, c'est que il y a beaucoup de mouvements qui sont levés, il y a beaucoup de gens qui peuvent se lever pour dire que je suis prophète, mais il y en a qui se lèvent en réalité et ils modifient la parole de Dieu juste pour leur propre, en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que si je trouve que c'est pas juste que je dois avoir, par exemple, si je parle de la polygamie, c'est pas juste que j'ai juste une femme, je dois être comme l'autre dénomination, que je dois avoir plusieurs. Donc, je trouvais des versets dans la Bible qui m'aideraient à pousser ce que je disais vers avant. Vous voyez, c'est tellement facile d'enlever toutes sortes de choses. Et de dire, ok, la Bible qui dit ça, et moi je suis d'après la parole de Dieu. Donc, il y a toujours un moyen de vérifier et de voir l'accord que Dieu est en train de faire. Parce que dans ça, hein, verset 7 et 18, il nous dit que lorsque Dieu a établi une vérité, Dieu ne change pas cette vérité. Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, et demain il va changer.
Wow.
Donc il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Donc la vérité d'abord, il n'a pas besoin de changer après parce qu'il a fait une erreur quelque chose comme ça. Non. Cette vérité continue sur lui dans la même vie. Tous ceux et celles qui viennent et parlent de la parole de Dieu continuent dans cette même vérité. Il n'y a pas de désaccord avec de la parole de Dieu. Donc, je vais aller un peu vite maintenant, ok? J'ai essayé de terminer avec les points avec Ellen White. En tant qu'adventiste, il y a beaucoup de gens qui croient en Ellen White.
Pourquoi?
Parce que c'est un des contrats à signer lors de notre baptême. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas baptisé. Si tu ne baptises pas, tu ne seras pas marié.
Oui. Moi, un exemple que j'ai eu pour un demi, c'est que quand j'ai commencé à faire la Bible il y a 4 ans avec sa sœur puis Abubakar, quand j'ai la Bible en premier, c'est après ça qu'il y avait des passages où ils m'ont dit que parfois c'était un visage, sinon que, puis bon, on allait voir différentes références, mais ça restait un peu vague pour moi. On allait lire, et là, elle venait pas inventer des choses de plus pour me dire, mais elle venait comme corroborer pour me dire, puis en même temps amener une lumière à la fond. Ça ne plaît pas en contradiction avec la vie, du moins pas celui jusqu'à présent. Ça nous a fait fonctionner encore plus, puis justement, comme une histoire, si c'était une carte, si je faisais des recherches, je voyais qu'il y avait une carte.
Donc, c'est ce que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une particulière qui nous amène à comprendre la grande lumière. Okay? Donc, il y a beaucoup de personnes, comme une femme aussi, c'est la même chose, que des fantasmes bibliques qui étaient des fois, vous ne comprenez pas, mais qui, à travers les choses de prophétie, on comprenait, on avait une meilleure compréhension. Maintenant, juste une petite historique d'Ellen White. 1844, la grande déception. Ceux qui attendaient le retour de Jésus en 1844, le 22 octobre, à la fin de la tout le monde était déçu parce que Jésus n'était pas là. Okay? Donc, plusieurs ont quitté l'église, sont séparés de Dieu, et il restait juste un petit groupe qui allait chercher, qui allait prier pour demander à Dieu pourquoi c'est pas arrivé, Jésus n'est pas venu. Donc, après cela, il y avait William Paul et Adam Fox qui avaient des visions et que Dieu leur a demandé de partager ces visions. Et puis ils ont refusé. En décembre 1844, Hélène reçoit sa première vision. Elle reçoit sa première vision. Et sa première vision est elle voit un groupe de gens qui marchaient sur un chemin étroit qui allait vers la Nouvelle Jérusalem, le Canaan Céleste. Ok? Et puis, après cette vision, début 1845, elle partage la vision. Et lorsqu'elle partage la vision, Hazen Or était dans l'assemblée à ce moment. Et il écoutait la vision, c'était la même vision qu'il avait reçue, mais que lui, il a refusé de partager. Ok? Et 30 août 1846, elle épouse James White. C'est pour cela qu'elle est appelée Ellen G. White. Et puis, 1844 à 1915, elle a encore plus, elle a plus de 2000 vidéos, elle écrit beaucoup de choses. Beaucoup de livres, beaucoup de manuscrits, beaucoup de lettres, tout ça. Ok? Son travail, pour apporter un petit peu du livre. Le texte. On ne peut pas juste croire à une loi comme ça, non? On va appliquer le texte qu'on a vu à Ellen White, je crois. On va essayer de faire ça assez vite pour voir si elle respecte tous les critères qu'on a vus de sa présence. On avait 7 critères. En accord avec la parole de Dieu. Sur Manuscrit 88, dans la plupart de ces livres, vous allez voir qu'elle est dans la main est toujours en parole de la parole de Dieu. C'est des questions à faire assez bien comme une révélation qu'on vous fait. On va voir qu'il y a des fautes là-dedans. Parce que je n'ai pas trouvé la version française. Donc, il y a des fautes, c'est Gogo là-dedans. Plutôt le standard du caractère des révélateurs des doctrines et le test de l'expérience. Donc, l'expérience, elle met toujours l'emphase où on a voir la parole de Dieu. Elle n'a jamais détruit ou mis de côté la parole de Dieu pour dire. Ce que j'écris, c'est ça le plus important. Ok? Donc, premier, c'était en accord avec la parole de Dieu. Deuxième, la réalisation des prophéties. La première chose, une des prophéties qu'elle a dit, c'est catastrophe et guerre. il y avait le tremblement de terre 8 avril 1906. Elle avait annoncé cela avant. Et à ce moment, il y avait beaucoup de personnes qui habitaient dans, à San Francisco et Oakland. Lorsqu'ils ont lu ce que Ellen White a écrit, ils ont quitté cet endroit. Et après, le 18 avril 1906, le tremblement de terre est arrivé. Au niveau de la santé, à l'époque, le tabac était quelque chose qui était dans la mode. Okay? Elle avait dit, elle avait écrit que c'était quelque chose qui était toxique et qui peut en être toutes sortes de maladies. Les gens étaient comme, ah non, c'est la mode. On continue à fumer. Et puis en 1957, après la mort d'Ellen White en 1915, les associations de la science et la société américaine du cancer réalisent que, oh, on conclut maintenant que la cigarette cause le cancer. Finalement. C'est un des deux pièces. Trois pièces. Ok, éviter les vies. J'ai dit que je suis présenté. Je ne prétendais pas être prophète. Je ne me suis pas opposé aux personnes qui ont regardé ce site, mais beaucoup m'ont appelé. Je suis chargé de Dieu, je suis le messager de Dieu envoyé pour porter un message de reproche à l'erreur et l'encouragement aux dons et aux âmes. Avec un stylo et une voix, je dois porter le message qui m'ont été donné. Le mot m'a été donné et tu dois réprimander ceux qui. Il y avait un mot en anglais que je ne savais pas comment traduire, mais j'ai mis déranger la foi du peuple. Comme si il a bloqué l'avancement du peuple de Dieu. Et toutes les choses que je te donnerai afin qu'elles puissent être témoins de la vérité jusqu'à la fin des temps. Donc, elle, dans toutes ces écritures, elle essayait de donner l'Église dans la vérité, dans sa préparation à rencontrer son Dieu, dans sa préparation à aller vers le ciel. Encourage, reproche, c'était ça son but dans les Écritures. Elle élève la personne de Jésus-Christ et elle reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Okay? Donc, d'ailleurs, si vous voulez savoir plus sur cela, le livre Jésus-Christ. Ok? Maintenant, notre cinquième. C'est parler avec autorité. Cette citation, vous n'allez pas voir qu'elle doit parler avec autorité. Okay? Mais elle dit qu'il nous appelle à maintenir fermement la force de la foi aux principes fondamentaux qui reposent sur une autorité incontestable. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu est partagée, lorsqu'elle partage la parole de Dieu, lorsqu'elle prophétise ou elle écrit quelque chose, elle n'écrit pas d'une façon cynique ou hésitation. Mais lorsque vous lisez les Écritures, vous sentez qu'il y a une interpellation, il y a comme si quelque chose qui brûle dans votre cœur. Jamais arrivé. Ok. Quelque chose qui brûle dans votre cœur, vous sentez comme visé, réprimandé. Mais en même temps, c'est extraordinaire. Pour que les prix, ok, ça c'est des. C'est la presse qui parle par rapport à sa mort, après sa mort. Ok? Elle ne montrait aucune fierté spirituelle, elle ne cherchait pas le. Ok, c'est un autre mot que je n'ai pas pu traduire. Elle a vécu la vie et fait le travail digne d'un prophète. La plus admirable de la succession américaine, c'est New York Independent, le 23 août 1915. Et un autre aussi, Californie, le 23 juillet 1915, parle de la vie d'Ellen White. Et c'est des personnes qui se trouvent, qui n'est pas dans le livre, mais c'est des personnes qui ont connu Ellen White et qui n'ont pas. Qui n'est pas avancé. Ok, donc pour cette discussion. Maintenant, dernier critère, c'était, on avait dit qu'il y avait des. et une physique aussi qui se passe. Donc on avait vu dans Nombre 24, Daniel 10, quelques critères tombent en état faiblesse, relevés et soutenus par Dieu, les yeux grands ouverts sur Adido ne respirent pas, même en parlant. Donc, elle, Lord Paul, ok? Une longue connaissance d'Ellen White qui l'a vu en vision 50 fois, ici les événements comme ceci. Et je pense que je vais terminer avec mon avant-dernier diapos. Ok, voilà, elle écrit la vision, alors que Ellen White est en vision. Il y a d'autres examens que même James White, son mari, a fait lorsqu'elle était en vision. Elle essayait d'emmener un médecin pour voir, examiner s'il y avait quelque chose pour aider, expliquer ce qui se passe. Et à la fin de l'examination, le médecin dit « Ah, on ne sait pas comment ça se peut. » Ok, on en voit dans une vision, elle donne trois cris énormes de gloire qui font écho et réécho la seconde et surtout la troisième, la plus peuple, mais plus excitante que la première. La voix ressemblant à celle d'une distance de et devient moins audible. Pendant environ 4 ou 5 secondes, elle semble tomber comme une personne dans une évanouissement et ou une perte de sa force. Vous vous rappelez, le prophète, lorsqu'il voit Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. N'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu qui arrive, elle relève, il les touche, il dit mets-toi debout, et puis Dieu relève avec une force. Elle décrit encore, elle sent alors être instantanément remplie d'une force surhumaine. Sa foi se lève immédiatement et se promène dans la pièce. Il y a des mouvements fréquents de mains et des bras, pointant vers la droite ou vers la gauche en tournant la tête. Tous ces mouvements sont faits de manière très gracieuse. Dans n'importe quelle condition, la main ou le bras peut être placé, il est possible pour, il est impossible pour quelqu'un de le déplacer. Ses yeux sont toujours ouverts, mais elle ne fait pas un clin d'œil. Sa tête est levée et elle regarde vers le haut, pas avec un regard vide, mais avec une expression agréable, seulement différente de la normale, en ce qu'elle semble regarder attentivement un objet lointain. Quatrième, elle ne respire pas, mais son pouls bat régulièrement. Son visage est agréable et la couleur de son visage est ressentie comme dans son état naturel. Biographie de l'homme. Donc, après ces quelques critères, ces quelques, juste une image de la vision qu'elle voit avec les gens qui passent. Donc, après d'avoir passé à travers tous les critères et les tests publics qu'on a vus, et on a essayé de passer et les mois à travers ces critères, on comprend que il y a une séparation entre nous et Dieu, n'est-ce pas? Dieu veut toujours nous parler. Il ne peut pas nous parler face à face, il doit envoyer quelqu'un. Il envoie des prophètes. Mais lorsqu'il envoie des prophètes, l'ennemi n'est pas content parce que c'est là quand Dieu m'a révélé toutes sortes de secrets par rapport à comment on va vaincre l'ennemi, comment on va être vainqueur, et aussi comment être prêt ou se préparer à être dans le Canaan céleste. C'est ça? Donc, lorsque l'ennemi sait ce que Dieu va faire, lui, ce qu'il fait, il essaie d'envoyer les faux prophètes. Donc, à ce moment, lorsqu'on envoie, on a un faux prophète, on a un vrai prophète, la plupart du temps, les gens qui arrivent et voient tout ce genre de choses, on arrive dans un genre de fond, dans cette vision, parce qu'on ne sait pas où aller. On a deux sortes de paroles, et puis peut-être les deux sont différents, ou l'un est plus proche de la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne des tests, des critères à respecter pour ce prophète. Et pour nous donner cela, pour que nous puissions en retour reconnaître si ça vient de Dieu ou si là ne vient pas de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que, pour vous, le texte qu'on a offert, Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, le verset 17. Ok? Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'à la fin, c'est quelque chose que nous aurons besoin pour dans notre cheminement, dans notre marche vers le ciel. Et la question qu'on doit se poser ce soir, c'est que lorsqu'on regarde, on a regardé toutes sortes de choses, on a eu toutes sortes de messages durant cette semaine. Et la question ici est, lorsque le dragon quitte la femme et va faire la guerre avec sa postérité, est-ce que la Bible dit qu'il a vaincu la postérité?
Non.
Est-ce qu'il est allé juste faire la guerre? Mais la Bible ne dit pas qu'il a vaincu sa postérité, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Oui ou non?
Exact.
Ok. Serait-il possible de dire que cela dépend? S'il gagne la guerre ou il ne gagne pas la guerre? Cela dépend si nous lui donnons le terrain, sur nous, ou bien nous prenons ce que Dieu nous a donné comme outil pour nous défendre. Ça revient à la même chose que ce matin, c'est notre décision sur nous. Lorsqu'il arrive pour nous faire la guerre, il n'est pas venu pour nous faire des bisous, ou pour nous envoyer un texto, ou bien il dit j'arrive, ou bien il va updater son status sur Facebook pour dire je viens t'attaquer. Non. Et lorsqu'il arrive, il arrive pour essayer de nous détruire. Et la question se pose. La Bible de Calvin dit que sa postérité a vaincu. La postérité de la femme peut vaincre l'ennemi. Il est capable de vaincre l'ennemi avec les outils que Dieu a donnés. Mais nous qui formons partie de cette postérité, est-ce que nous serons les vainqueurs ou les vaincus? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on prend les outils que Dieu nous donne pour nous combattre, ou bien on met les outils de côté parce qu'on est assez fort pour nous défendre? Il y a une chose qu'on voit dans ce texte aussi. C'est que Dieu est assez amour pour nous donner, pour nous outiller, pour nous équiper pour affronter ce temps-là. On regarde toujours Apocalypse chapitre 12 d'une façon de voir le dragon, le serpent, la guerre et tout ça. Mais lorsqu'on regarde d'une façon de notre perspective, on voit qu'il y a un Dieu qui prend soin de ses enfants. Il donne les outils qu'il faut. Il donne les équipements qu'il faut pour que tu puisses arriver, pour que nous puissions y arriver. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que je suis en train de prendre l'outil pour me défendre? Ou bien je dis, c'est pas tellement important, je suis pas encore prêt pour la bataille, quand je serai vieux, ou bien quand je suis pas tellement prêt. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et malheureusement, je ne vais pas rester ce soir, sinon pendant les jugements partis, j'aurais pu vous montrer, poser des questions qui sont à l'extérieur par rapport à l'expérience. C'est-à-dire que nous ne sommes pas équipés pour la fin. Nous serons soit d'un côté en train de combattre contre notre propre frère, ou bien on va combattre vraiment l'ennemi de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à l'église, mais qui sont en train de se battre contre eux-mêmes, contre leur propre frère et soeur de l'église, alors que l'ennemi se trouve à l'extérieur. Et lorsque nous avons ce genre de filles chez nous, vous savez, c'est quoi le problème? C'est que Dieu nous donne des outils pour combattre l'ennemi, on prend des outils pour combattre le frère. On arrive avec le texte, c'est la loi de la vie. Tiens, voilà ce que la loi a dit. Tiens, voilà ce qui est dit. On n'est pas là pour se battre contre l'un et l'autre. On est là pour se disputer, pour s'encourager, parce qu'on a un objectif à faire, c'est quoi? C'est la vie. Et lorsqu'on est en marche, on n'essaie pas de se battre, de pousser les autres sur le chemin. On essaie d'aider, de tenter ou bien de d'attraper la main de quelqu'un qui a besoin de, d'une main pour marcher sur la route. Et celui, lorsque le mal arrive, c'est celui qu'on doit se tourner vers et combattre. Ne faites pas le travail du dragon dans l'église. Prenez les outils que Dieu nous a donnés et mettez le dragon en dehors de l'église. Ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, c'est que juste à travers cela, essayez de prendre compte que Dieu nous aime. Et Dieu est capable de prendre soin de nous jusqu'à la fin. Et ce qu'il nous donne est assez fort et puissant pour nous faire atteindre l'autre bord. Qui est l'objectif est la canard en fait. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que les gens qu'elle a vus dans cette vision, je ne puisse pas partir de ces gens. Et j'entends peut-être que ce sera une autre dimension. C'est pas? J'aimerais terminer avec le mot de prière avec l'ancien de nous. Notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi en cet instant. C'est vraiment une joie et un privilège que d'étudier de partager ta parole. Il y a plein de choses, plein d'informations par rapport à l'esprit de prophétie. Il y a beaucoup d'outils que tu nous as donnés à travers ta parole pour essayer de comprendre et essayer de nous préparer pour la fin des temps. Que, Seigneur, après la présentation et toutes les présentations qui ont été faites jusqu'à présent, que tu puisses mettre dans notre cœur ce désir d'aller fouiller davantage pour comprendre pour nous-mêmes les outils que tu nous as donnés. Seigneur, c'est vrai que nous sommes entourés de toutes sortes de choses, toutes sortes de questions, toutes sortes de personnes. Et des fois, nous pensons de ce que nous devons étudier toutes sortes de livres, ou lire toutes sortes de livres, toutes sortes de religions, pour prendre toutes sortes de religions pour essayer d'expliquer aux autres. Mais ta parole de vérité est plus puissante et plus édifiante que toutes ces autres livres. Aide-nous à trouver notre plaisir à l'étudier. Aide-nous, Seigneur, à développer cet amour, à fouiller dans ta parole, afin que les trésors que nous puissions avoir puissent régir notre cœur et nous encourager à partir davantage. Car Seigneur, à la fin de la journée, cela nous aiderait, nous aide à être mieux équipés, à avancer sur ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Soyez chacun de nous ici présents. Nous sommes venus dans ce camp avec des objectifs, des visions, des choses que nous voulons atteindre. Et peut-être nous sommes venus ici parce que nous sommes inscrits et puis nous ne sommes pas venus vraiment pour attendre quelque chose de la part, mais juste pour participer à cause de quelqu'un. Et ce que j'aimerais te demander, Seigneur, que tu puisses changer ta perspective et que tous ceux et celles qui sont venus ici puissent sortir de ce camp avec un renouvellement d'esprit et avec une mentalité, une perspective qui vient du ciel. Afin que toutes les œuvres, toutes les choses que nous allons accomplir se fassent pour ta gloire seule. Que ta gloire soit élevée, que ton nom soit élevé. Et comme tu l'as dit dans Matthieu chapitre 5, que notre lumière vive afin que les autres puissent voir. Et qui glorifie le Père, notre Père qui est en ciel. Cela soit notre prière, notre désir, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus.
Amen.